À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Raissa Maritain, qui est décédée le 4 novembre en 1960. Raissa Maritain, c'est une femme absolument fantastique, l'une des femmes les plus admirables de ce siècle. Une juive convertie, telle épouse de Jacques Maritain, ce très grand philosophe, qui est mort aussi comme elle, comme un saint. Et ce qu'on connaît moins de Raissa Maritain, qui était un grand écrivain, c'est que c'est une grande mystique moderne. Vraiment une mystique admirable. Raissa, ça s'appelle R-A-I-S-S-A. Son nom de famille, Oumansov. Un nom russe. O-U-M-A-N-C-C-D-I. O-F-F, Oumansov. Alors, Raissa Oumansov est née le 12 septembre 1883, dans une famille juive des bords de la mer Noire. Elle a 10 ans, quand avec ses parents et sa jeune sœur Vera, une femme aussi vraiment admirable, sa sœur, elle émigre à Paris, elle a 10 ans. Et ce qu'on connaît moins de Raissa Maritain, qui était un grand écrivain, c'est que c'est une grande mystique moderne. Vraiment une mystique admirable. Raissa, ça s'appelle R-A-I-S-S-A. Son nom de famille, Oumansov. Un nom russe. O-U-M-A-N-C-C-D-I-O-F-F. Oumansov. Alors, Raissa Oumansov est née le 12 septembre 1883, dans une famille juive des bords de la mer Noire. Elle a 10 ans, quand avec ses parents et sa jeune sœur Vera, une femme aussi vraiment admirable, sa sœur, elle émigre à Paris. Elle a 10 ans, elle arrive à Paris. C'est à la Sorbonne, où elle étudie les sciences, plusieurs années plus tard, que Raissa va rencontrer Jacques Maritain, qui est seulement d'un an son aîné. Puis, dès le début, c'est fantastique. L'accord est total entre ces deux jeunes gens. Un accord total. Ils sont incroyants. Ils se marient le 26 novembre 1904. Mais ensemble, ils se lient d'amitié avec Charles Péguy, dont je vous ai parlé déjà deux fois, des 5 septembre. Puis Ernest Psychary, dont je vous parlerai à la fin du mois, le 25 novembre. Et en découvrant au Collège de France les idées d'Henri Bergson, eh bien Jacques Maritain et son épouse Raissa se sentent comme vivifiés, disent-ils, d'un air salubre, c'est ce qu'ils écrivent. Ils ne sont pas pratiquants. Mais il s'ouvre à lui, à la possibilité peut-être de croire en, mon Dieu, en quelque chose. Tout en restant absolument et résolument tourné vers le futur puis la modernité, hein, ils sont vraiment de leur temps. Mais Raissa Maritain, ou Oumansov, reçoit tout à coup une seconde illumination intellectuelle. C'est la lecture du grec Plotin, et la vérité puis la beauté appartiennent bien au même monde, mais il va falloir une rencontre décisive là, avec Léon Blois, cet écrivain, ce penseur chrétien dont je vous ai déjà parlé aussi, pour que les Maritains donnent un nom à leur spiritualité qui naît entre eux, donner un nom à cette spiritualité, à cette recherche, sans tomber dans les dédales de l'exotisme insensé ou des sectes. Or, un an après, le 11 juin 1906, c'est donc même pas deux ans après leur mariage, Jacques et Raissa et sa sœur Vera reçoivent à Montmartre le baptême. Ça y est. Et malgré une santé très fragile, puis en dépit de la souffrance inévitable de rester longtemps incomprise par ses parents juifs et certains amis, mais Reich Samaritain est, puis elle va rester, une convertie à la fois extraordinairement solide, puis remarquablement nourrie. Elle l'enracine là encore davantage en puisant aux sources de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Prier, comprendre, m'était une seule et même chose. L'un donnait soif à l'autre. Elle avait donc besoin de prier puis de comprendre. Car elle a laissé un journal, qui est d'ailleurs paru dans les œuvres complètes en 15 volumes de Jacques et Reich Samaritain. C'est paru aux éditions universitaires Fribourg puis aux éditions Saint-Paul à Paris. Ce sont de magnifiques volumes, semblables à ceux de la Pléiade, 15 volumes. Et dans le dernier volume, eh bien, on retrouve le journal de Raïssa dans une nouvelle édition, puis ses poèmes, ses essais, et il y a des choses magnifiques qu'elle a publiées. À propos de sa jeunesse, d'ailleurs, et sa conversion, ses nombreuses amitiés, il faut absolument lire « Les grandes amitiés ». C'est toujours republié, ça, chez Reich, de Reich Samaritain, « Les grandes amitiés ». C'est un bouquin que je vous recommande énormément. Il faut lire ça. Il faut lire ça. L'itinéraire, donc, spirituel de Reich Samaritain s'est longtemps demeuré ignoré, malheureusement, de ceux qui ont vu en elle une femme très cultivée, très artiste, une femme de lettres. C'est vrai que c'est tout ça, mais c'est aussi une grande, grande mystique. Cette juive convertie a été vraiment l'une des mystiques les plus remarquables. Je ne saurais jamais trop le répéter de ce siècle. C'est François Mauriac qui écrit à la suite de la mort de Reich Samaritain, le 4 novembre 1960. Il écrit ceci. « Agenouillé auprès de Jacques Maritain, dans la chambre où Reich Samaritain repose, je regarde avidement ce beau front. Elle était très belle, ce beau front d'où s'est retirée la pensée et qui en garde pourtant le rayonnement. Le visage de cette femme, deux fois inspirée, puisqu'elle vivait de Dieu et qu'elle était poète. » Ces mots de François Mauriac, ça nous mène droit au cœur du mystère Raïssa, comme l'écrit si bien Elisabeth Marshall, dont je m'inspire. Ces mots-là nous révèlent d'emblée cette personnalité. Une personnalité absolument incroyable, qui a des facettes presque sans nombre. Tout ça sort du feu intérieur qui l'habite. Avant tout, sa beauté, comme je vous dis. Reich Samaritain, elle est belle, elle est très belle. Et ce qui frappe chez cette femme fragile, qui a une silhouette, disons, gracile, légère, c'est le regard profond, intelligent, brûlant. Cette juive convertie est d'abord une intellectuelle. Elle est vraiment habitée par la faim et la soif de vérité, et elle lit beaucoup, beaucoup. Avec Jacques Maritain, son mari, ils forment un couple de philosophes confirmés, on peut dire. Mais c'est elle qui aura la première, l'intuition de ce que peut leur donner saint Thomas d'Aquin. C'est elle encore qui l'introduit à saint Jean de la Croix. C'est elle aussi qui participe à la préparation de ses conférences, car c'est une femme égale à son mari, qui peut le regarder dans les yeux. J'ai déjà rencontré Jacques Maritain, il avait des yeux bleus absolument fantastiques, étonnants, d'une bonté, d'une sérénité, d'une humilité rare. Alors, pour son mari, elle recherche, elle annote, elle apprécie d'un jugement absolument vigilant et pénétrant ce qui est écrit. Et quand Jacques publie son premier ouvrage, ce sont des études critiques de la philosophie d'Henri Bergson, il considère que c'est leur premier livre à tous deux, tant elle y a travaillé, parce qu'elle l'assiste constamment. Raïssa, c'est une artiste aussi. Elle a publié une centaine de poèmes, qu'elle a, pour quelques-uns, traduits de l'anglais d'ailleurs. C'est magnifique, ces poèmes. J'ai lu ça, j'ai relu ça ces jours-ci. C'est très, très beau. Il y a des prières aussi, là-dedans. C'est magnifique. Elle a publié donc « Lettres de nuit »,« La vie donnée », c'est superbe, puis « Au creux du rocher ». Sa poésie est d'inspiration religieuse, métaphysique. Elle l'explique dans ses essais. Mais elle n'en reste pas là. Musique, peinture, écriture, tout l'intéressera ça. Est sensible à la vie artistique de son temps. Et puis, elle est à l'affût de tout ce que son époque peut inventer de bon, de beau et de vrai. À la maison des Maritains, il y a des gens, des visiteurs remarquables. Alain Fournier, Charles Péguy, André Lhote, Francis Jammes, Jacques Copeau avant la Première Guerre, puis ensuite Jean Cocteau, Julien Green, Georges Bernanos, ensuite dans les années 20. Et autour de Jacques et de Raissa se crée quoi? Ben, une espèce de grand... un véritable mouvement littéraire et philosophique. Qui nous rappelle l'époque d'autrefois, les grands salons. Mais c'est très différent chez eux. Parce que la foi est au centre des discussions. Et... on assiste même à de nombreuses conversions chez elles, chez eux, chez les Maritains. Parce qu'avec les Maritains, il semble à nouveau possible d'appartenir au mouvement culturel, donc s'intéresser aux choses de l'esprit, de l'intelligence, aux choses humaines de notre temps. Puis, ça semble vraiment possible d'être pleinement chrétien, pleinement chrétien. Je vous parlerai de tout ça demain dans une émission spéciale. Raissa Maritain est au centre, donc, de cette espèce de tourbillon intellectuel. C'est elle qui accueille et qui, discrètement, guide puis conseille. Puis elle entretient de nombreuses correspondances. Hein. Elle a du charme aussi. Puis elle mène avec brio la vie d'une vraie mondaine. Et pourtant, qui pourrait soupçonner, qui pourrait croire que cette femme de lettres et d'esprit, qui a une conversation vraiment séduisante, poursuit depuis toujours au plus secret de sa prière la quête acharnée d'une perfection intérieure qui est la sainteté, quoi. Elle veut devenir sainte. Comme Jésus le demande, soyez parfaits. Que cette poétesse soit plus profondément une contemplative, c'est surprenant. Hein? Une contemplative dont les souffrances mystiques évoque vraiment les plus grandes saintes. Et puis, il y a un dernier trait de son personnage, hein, c'est son extrême pudeur quant à sa vie intérieure. Elle l'écrit dans son journal. Elle en parle. C'est le seul véritable témoin de ses états d'âme. C'est ce journal, qui est rédigé dès 1906. Elle écrit, bien secrètement, « Arrête et vois que je suis Dieu ». Impression que c'est là ce qui m'est demandé chaque matin. Arrête et vois que je suis Dieu. Il faut bien s'arrêter et penser à Dieu dans lequel nous sommes et qui est en nous. Il faut le faire souvent. Alors cette jeune femme n'a que 33 ans lorsqu'elle a résolu, sur les conseils de son père spirituel, de donner à l'oraison tout le temps que Dieu lui demanderait. L'appel est intense et sans détour. Elle écrit dans ce recueillement « Nécessité de m'isoler. Je passe toutes les matinées dans ma chambre. Nécessité donc de fermer les yeux. » Eh bien, loin de s'essouffler, sa soif de prière va croissant au fil des mois. Puis le recueillement la dépasse. Il se fait de plus en plus pressant et presque violent. Écoutons maintenant d'Igor Stravinsky, un extrait de sa symphonie pour instrument à vent, interprété par un ensemble hollandais sous la direction d'Edo de Waart. Après avoir entendu Stravinsky, qui composait justement à l'époque des Maritains, je reviens à ce recueillement de Reich Samaritain, qui se fait de plus en plus pressant, vous ai-je dit, et presque violent. Elle écrit d'ailleurs à ce sujet, « Il commence de bonne heure. Je n'ai pu terminer ma toilette. » Parce que son recueillement commence de bonne heure. Elle ne peut pas terminer sa toilette, c'est incroyable. Elle ajoute « dur, très fort, ardent, trois quarts d'heure. » Reprend vers 10 heures. D'une manière plus diffuse, jusqu'à midi. Ou encore un peu plus tard, elle écrit « Cette fois, l'oraison déborde sur l'après-midi. Malgré tous mes efforts, il m'est impossible de rester à table, de manger. C'est ce qu'on appelle l'emprise de Dieu. » L'Esprit Saint l'envahit totalement. Et la présence du Christ se fait immense en elle. Reich Samaritain entre en oraison donc avec bonheur, avec facilité, et prier lui semble l'expression toute naturelle de sa foi. Puis instinctivement, cette jeune femme a trouvé les mots pour parler à celui qu'elle appelle son unique bien-aimé. Pourtant, elle aime tellement Jacques Maritain. Ce sont des véritables mots d'amour qui se passent de formules. Elle écrit aussi « Entre 9 heures et midi, oraison presque ininterrompue. » Elle écrit ça un 27 juin. « D'abord, ajoute-t-elle, sans considération précise, puis en essayant de dire les litanies du Sacré-Cœur, à la première invocation, c'est... si je me souviens bien, « Père des cieux, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. » Alors, à la première invocation, elle est obligée, écrit-elle, « obligée de m'absorber, l'esprit arrêté sur la personne du Père. » Tout à coup, sentiment aigu de sa proximité, de sa tendresse, de son amour incompréhensible, qui le pousse à demander notre amour, notre pensée. « Je pleure des larmes très douces », écrit-elle. Alors c'est le temps de la joie puis de la quiétude. Et pourtant déjà, Reich Samaritain pressent quelque chose de l'abandon progressif qui lui sera demandé. « Se mettre en oraison », confesse-t-elle le 12 octobre, « c'est se laisser mettre en terre avant d'avoir poussé ses racines, sa tige et ses feuilles. » Et elle ajoute, c'est se laisser pétrir. Elle revient sur cette expression quelquefois, pétrir. Alors l'effusion d'amour l'a préparée aux épreuves qui vont suivre. Un 10 juin, elle écrit, par l'oraison, il ne s'agit pas de faire descendre Dieu du ciel, mais de descendre en nous-mêmes, au fond de notre âme, en balayant les obstacles. Comme l'enseignait plutôt le chanoine Caffarel, malheureusement décédé, c'est descendre en nous-mêmes, au fond de notre âme, où habite notre Sainte Trinité. C'est sa santé fragile qui l'a contraint alors à s'aliter assez souvent, mais en acceptant d'être dépouillée là, d'une part d'elle-même par la fatigue, et une certaine forme de maladie, Reich Samaritain entre dans une sorte d'obscurité de la foi, où on peut dire que l'amour de Dieu est plus diffus, moins senti. Elle écrit d'ailleurs à l'automne 1919, « Couchée, très souffrante, je ne trouvais plus aucun refuge en moi-même. Ma pauvre âme est toute brisée, sans vie, sans goût, sans émotion. Mais l'oraison nue me soutient, me repose, et je ne voudrais pour rien y renoncer. » Ce sont des paroles qui peuvent s'appliquer à tous les malades qui m'écoutent. Je répète, couchée, très souffrante, je ne trouvais plus aucun refuge en moi-même. Ma pauvre âme est toute brisée, sans vie, sans goût, sans émotion. Mais l'oraison nue me soutient, me repose, et je ne voudrais pour rien y renoncer. Mais pourtant, à Versailles, comme à Meudon ensuite, où ils habitent, Reich Sam est plus sollicitée que jamais. Elle écrit, En mars 1921, notre vie se complique. Comment garder mon temps de raison entamé le matin par la maladie et la fatigue, empêché l'après-midi par le travail nécessaire, les visites, les lettres? Mon cœur est bouleversé par la peur de ne plus progresser, par la tentation de tout laisser là, de me donner à la vie active comme un ver de terre amoureux d'une étoile s'apercevant un jour de la folie de son amour qui irait s'enfouir humblement dans la terre. Si je pouvais vivre comme une recluse parmi les miens. Ça, c'est une grande grâce qui nous est donnée quand on peut vivre seul, reclus. C'est une très grande grâce. Pourtant, Reich Samaritain illumine, si on peut dire, tous ces gens qui visitent les Maritains. Elle les illumine de son regard et de son sourire. Les dimanches de Meudon, écrit un de leurs amis, Olivier Lacombe, les dimanches de Meudon, où habitent les Maritains, mais chacun s'en retournait ému, dit Olivier Lacombe, jusqu'au fond de l'âme d'avoir été accepté et reconnu personnellement avec une amitié attentive. Mais comment fait-elle? Comment fait-elle? C'est que le prix de ce rayonnement, nul ne le connaît vraiment, hein, c'est son oraison secrète. Seul Jacques Maritain, son mari, et Vera Oumansoff, sa sœur, sa jeune sœur, savent que Raïcha ne peut soutenir un tel régime de vie qu'en restant disponible à l'appel au recueillement, comme il écrit, disponible à l'appel au recueillement. Tous les trois, bien, ils ont donné leur vie à Dieu, hein? Jacques, Raïcha et Vera. Ils sont devenus, d'ailleurs, oblats, bénédictins, d'une abbaye, évidemment bénédictine, hollandaise, c'est sans doute l'abbaye d'Osterhout, et ils forment une petite communauté de laïcs, où l'apprentissage des choses, c'est ce qu'elle écrit, l'apprentissage des choses spirituelles tient la première place. Elle a composé en toute liberté, d'ailleurs, une courte règle de vie qu'ils lisent quotidiennement, hein, pour la mettre en pratique. Et c'est de la taille d'un petit cahier à insérer dans un missel. Tout le monde avait des missels à l'époque. Puis elle accorde à l'oraison et à l'amour fraternel la première place. C'est le secret de sa vie mystique. L'oraison puis l'amour fraternel. Mais c'est un fait exceptionnel pour l'époque. Les Maritains ont obtenu d'avoir le Saint-Sacrement à leur domicile. Il faut avoir une autorisation, évidemment. J'aimerais bien avoir cette autorisation. Alors on l'installe en la fête du Sacré-Cœur, le 8 juin 1923. Alors, elle écrit dans son journal, presque en s'exclamant, « Voici une maison où je puis vivre en ermite. Tous mes rêves sont dépassés. » Alors, son petit cabinet de travail donne sur la chapelle, et par un guichet vitré, là, elle voit le tabernacle. Elle écrit, « Seigneur, donnez-moi votre cœur et prenez mon cœur. » Reich Samaritain est vraiment une femme exceptionnelle. C'est là le cri spontané de sa prière. Mais elle n'en reste pas moins profondément humaine. Elle écrit aussi, « J'ai peur de ce qu'il veut, Dieu, de ce qu'il veut. J'ai dit au père de Han que d'avance j'avais horreur des voies où Dieu me ferait passer. » Alors, Reich Samaritain publie d'ailleurs aux éditions du Cerf en 1930. Elle les avait publiées déjà dans une revue au cours des dernières années, les quatre dernières années, une traduction du traité de Jean de Saint-Thomas, Les dons du Saint-Esprit. Ça a été réédité récemment, tout récemment, en mai 1997, par les éditions Pierre Tequi. C'est un classique de la théologie, mais ce n'est pas facile à lire, je vous préviens. Les dons du Saint-Esprit. C'est un livre remarquable, très bien publié. Mais on arrive là à une mystérieuse souffrance mystique chez elle. Et le 16 octobre 1931, à 48 ans, pourtant elle s'arrête sur un texte de l'Imitation. Vous savez, l'Imitation de Jésus-Christ, dont je vous ai parlé il y a moins d'un an, le 19 décembre 1996. Un texte de l'Imitation qui l'invite à porter la croix. Elle fait cette douloureuse confession. Je l'ai reconnue, la croix, et je l'ai acceptée du fond de l'âme. Et à partir de là, son journal s'interrompt. Et là, Aïcha Maritain va écrire sur des bouts de papier qu'elle insère dans des carnets. Écoutons maintenant un extrait de la Symphonie des Psaumes d'Igor Stravinsky, qui date de 1930, et qui est interprété par un ensemble russe, un ensemble symphonique russe. Dans son carnet de notes, Jacques Maritain, qui a beaucoup publié, rend un hommage absolument admirable à sa femme, Aïcha Maritain, dont il est question aujourd'hui. Il écrit ces quelques lignes, c'est pas long. 6 lignes. L'aide et l'inspiration de ma bien-aimée Aïcha ont pénétré toute ma vie et toute mon œuvre. S'il y a quelque chose de bon dans ce que j'ai fait, c'est à elle, après Dieu, que je le dois. Le rayonnement de son amour et la pure ferveur de sa sagesse, sa force d'âme, son sens exquis du vrai et du juste, la bénédiction de Dieu sur sa prière et ses souffrances ont illuminé mes jours. Vous savez que c'était un mariage blanc, comme on dit. C'était un mariage sans relation, décor. Le rayonnement de son amour et la pure ferveur de sa sagesse, sa force d'âme, son sens exquis du vrai et du juste, la bénédiction de Dieu sur sa prière et ses souffrances ont illuminé mes jours. Vous savez que c'était un mariage blanc, comme on dit. C'était un mariage sans relation, décor, mais une relation profonde de l'âme. La bien-aimée de Dieu, cette Aïcha Maritain, donc, écrit sur des bouts de papier, vous ai-je dit, la suite de son journal. Elle est entrée dans la nuit de l'âme, avec ses angoisses et ses sécheresses. Après la joie de la rencontre, la Aïcha Maritain découvre un Dieu de la compassion et un ami, plus qu'un maître, prompt à endosser les souffrances humaines. Elle écrit en 1935, « Vous avez attiré à vous mon âme, lasse et tout en pleurs, comme un ami presse un ami sur son cœur. » Quelques années avant, elle avait publié une toute petite plaquette parue chez Desclée de Brouwer, où ça a 24 pages seulement, sur un très beau papier, ce magnifique petit « Et ses souffrances ont illuminé mes jours ». Vous savez que c'était un mariage blanc, comme on dit. C'était un mariage sans relation, décor, mais une relation profonde de l'âme. La bien-aimée de Dieu, cette Raïcha Maritain, donc, écrit sur des bouts de papier, vous ai-je dit, la suite de son journal. Elle est entrée dans la nuit de l'âme, avec ses angoisses et ses sécheresses. Après la joie de la rencontre, la Raïcha Maritain découvre un Dieu de la compassion et un ami, plus qu'un maître, prompt à endosser les souffrances humaines. Elle écrit en 1935, « Vous avez attiré à vous mon âme, lasse et tout en pleurs, comme un ami presse un ami sur son cœur. » Quelques années avant, elle avait publié une toute petite plaquette parue chez Desclée de Brouwer, où ça a 24 pages seulement, sur un très beau papier, cette magnifique petite plaquette avec une photo au début du Tentateur, la cathédrale de Strasbourg. Le prince de ce monde, chez Desclée de Brouwer, de Raïcha Maritain, je vous lis la fin. Lucifer a jeté sur nous le filet invisible mais fort de l'illusion. Il fait aimer l'instant contre l'éternité. Il fait aimer l'inquiétude contre la vérité. Il nous persuade que nous ne pouvons aimer la créature qu'en la déifiant. Il nous endort. Il nous fait rêver, il interprète nos rêves. Il nous fait œuvrer. Alors l'esprit de l'homme est porté sur des eaux marécageuses et ce n'est pas un des moindres succès du diable que de convaincre les artistes et les poètes qu'il est leur collaborateur nécessaire, inévitable et le gardien de leur grandeur. Accordez-lui cela et bientôt vous lui concéderez que le christianisme n'est pas praticable. C'est ainsi qu'il règne en ce monde. En vérité, il semble que tout lui appartienne et qu'il faille tout lui arracher. Et pourtant, tout lui a déjà été arraché, il est dépossédé, cette fois sans revanche possible, de l'empire perdu dans la catastrophe première et reconquis dès le paradis terrestre. Le monde est sauvé, délivré de lui. Oui, mais à condition que le sang rédempteur soit appliqué au monde et reçu dans les âmes. Il faut recevoir le sang de Jésus, il faut communier, il faut vraiment recevoir cette vie divine. C'est ça qu'elle veut dire. Elle ajoute « Toute place que ce sang n'a pas touchée, l'usurpateur, le démon, l'occupe encore. Rachetez le temps, dit saint Paul, parce que les jours sont mauvais. L'Église prodigue les bénédictions et l'exorcisme sur toutes les créatures, sur l'enfant qu'elle baptise comme sur l'eau du baptême. Le sacrifice unique perpétué par la messe jusqu'à la fin des siècles. La prière incessante des saints rachète l'espace et le temps comme point par point et instant par instant. » Bon, je pourrais vous continuer cette lecture, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau ce qu'elle fait, Raïcha Maritain. Elle a réduit sa prière donc à la respiration de cet amour qu'elle ressent pour Dieu. Mais plus feu que douceur, on peut dire que cet amour la travaille. La travaille sans cesse. Elle écrit « Le matin, dans l'oraison, je me suis livré à l'amour de Dieu ». Étendu comme sur la croix, immobilisé par l'amour. Et l'amour a travaillé en silence, évident, creusant, embrasant. Elle écrit ça en 1934, le 18 février. Parfois, Jacques Maritain surprend sa femme pleurant à la chapelle, le visage enveloppé dans la nappe de l'autel, et elle lui confie « Il veut tout prendre ». Et Jacques Maritain rapporte un peu plus tard, « Elle m'a avoué qu'elle avait demandé à souffrir davantage encore. Elle croit que cela lui est demandé à cause de l'état du monde. » Alors le chemin spirituel de Raïcha passe d'évidence dès le milieu de sa vie par une mystérieuse souffrance mystique qui la rend toute perméable à la douleur du monde qui l'entoure. Elle a, pour le dire, des mots vibrants, presque crus, Elle écrit, on dirait que Jésus veut entrer en moi, avec toute sa misère, avec tout le sang qui le couvre. C'est comme si le goût amer de la pauvreté et de la misère avait empli ma bouche et tout mon être. Alors, il n'y a rien de rêveur, il n'y a rien de compassé chez Raï Samaritain. C'est une femme meurtrie intérieurement, mais elle n'est pas malade, elle n'est pas folle. Et plus que jamais, Raïssa est une vivante, dont tout le bonheur, dit-elle, est d'être assise devant la fenêtre qui donne sur le jardin et au-delà sur l'eau verte. C'est une femme qui sait goûter la beauté d'une musique, ou les douceurs de la Providence, que sont ses amis, comme elle dit. Ses amis, elle les appelle les douceurs de la Providence. C'est beau. Et plus manifeste encore, mais c'est la force de l'amour, hein. Une tendresse unique et merveilleuse qu'elle porte à son mari. Elle a écrit des choses sur son mari absolument extraordinaires. Leur correspondance, d'ailleurs, s'affuit à nous convaincre de leur passion réciproque. Elle écrit un jour à son mari, « Tu es bien toute ma douceur en ce monde. » Tandis que Jacques Maritain avoue, il l'appelait Raya au lieu de Raïssa. Il avoue donc à sa Raya bien-aimée, toute belle et chérie de Dieu. Il ajoute, « La lumière que tu m'as donnée chante en mon cœur. » Et de cette époque date ce que Raï Samaritain nommera très joliment les lettres miraculeuses, une série de missives que Jacques Maritain lui a écrites avant un départ en bateau pour l'Amérique. Et que Vera, la sœur de Raïssa, comme vous savez, est chargée de poster jour après jour durant son absence. Dans le combat intérieur qu'elle mène, bien, Raïssa s'appuie sur la prière de Jacques Maritain. Elle écrit, « Il m'assiste comme un ange de Dieu. » Et elle implore, dans une lettre du 7 mai 1934, « Prie pour ta pauvre petite brebis. » Jacques Maritain lui écrit, lui, « Il faut que tu sois folle de confiance. Ce qui se passe en toi vient de Dieu et ne crains rien. À cause de toi, je n'ai peur de rien. » Alors, ils partagent la même foi, ouverte à la vie. Plus qu'un couple, c'est sans doute au-delà de ça. C'est une sorte d'unique vocation vécue à deux. Alors, la déclaration de la guerre va frapper Raïssa de plein fouet. Ils sont installés aux États-Unis, où ils continuent à écrire librement. Elle connaît alors, c'est ce que Jacques Maritain note, la blessure la plus cruelle, la brûlure de l'esprit à la vue de l'horreur d'un monde que Dieu semblait abandonner. Elle en parle d'ailleurs au début des grandes amitiés. Devant donc les persécutions, cette juive convertie ne peut que dire cette masse de douleur, comme elle dit, qui prend un visage qui la hante, écrit-elle, d'une indicible horreur et de compassion. Je suis desséchée de la soif de votre pitié, écrit-elle dans sa prière. Je suis desséchée de la soif de votre pitié. Au début des grandes amitiés, elle a un très beau texte, au tout début. Je le cherche là. C'est écrit le 6 juillet 1940. « Il n'y a plus pour moi d'avenir en ce monde, tellement elle est désespérée par la guerre. La vie est achevée pour moi, terminée par la catastrophe qui plonge la France dans le deuil et le monde avec elle. Du moins tout ce qui, en France et dans le monde, est attaché aux valeurs humaines et divines de l'intelligence libre, de la liberté sage, de l'universelle charité. De longtemps, peut-être jamais plus, nos yeux ne retrouveront notre France bien-aimée. Nous ne reverrons peut-être jamais, en ce monde, ceux qui nous sont plus chers que tout au monde. Nous avons presque perdu l'espérance qui nous soutenait dans nos travaux, dans les souffrances de notre vie, l'espérance que la charité du Christ pouvait pénétrer et transformer ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Dans quelle lumière cruelle resplendit cette vérité-là? Et cependant, Son commandement n'en est pas abrogé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit d'oublier que nous nous devons toujours à nos frères. Elle écrit admirablement bien, comme vous voyez. Et elle rayonne d'amour. Est-ce que l'offrande qu'elle a faite à Dieu de sa personne prend ici un nouveau sens? C'est Antoinette Grunelius, son amie, qui dit « Pendant la messe, Raïcha s'est soudain tendu vers Dieu, son regard reflétait inexprimablement le don de tout son être. Au cours de la journée, Raïcha m'a confié qu'elle s'était offerte à Dieu. » Alors, la guerre achevée, de New York à Rome, puis à Princeton, Raïcha Maritain est prise dans le tourbillon des voyages et de la vie mondaine. Entre les problèmes des tâches quotidiennes et aussi les exigences de sa position sociale, elle n'a que plus rarement le loisir de s'isoler pour faire oraison. Elle écrit « Mon temps est divisé, mis en poussière par une multitude de petites occupations. » Ah, les petites occupations, est-ce que ça prend du temps? Et pourtant, en arrivant à Rome en 1945, où Jacques Maritain est nommé pour 3 ans ambassadeur près du Saint-Siège, malgré la fatigue d'un long voyage en bateau, bien la première tâche de Raïcha est de faire oraison. Elle note, plus rarement encore, sur une feuille volante, d'ailleurs un coin d'enveloppe, une réflexion, un souvenir, pour nourrir le cœur, un poème, un cri. C'est son mari qui écrit à ce sujet. Tandis qu'émanait d'elle la force, la paix, la lumière et une sorte d'allégresse ailée, elle s'enfonçait dans une solitude avec son Dieu de plus en plus profonde, et elle n'avait plus sur la terre qu'un mince rebord où poser ses pas. Mais si son dialogue intérieur lui fait éprouver la vanité du monde, jamais elle ne se brise, jamais elle ne rompt. En réalité, écrit Jacques Maritain, personne n'avait pu lui voler son trésor. Elle le gardait caché dans l'humilité. La prière peut devenir incessante quand l'âme prie sans savoir elle-même qu'elle prie, écrit-il. Écoutons maintenant un bref passage d'une œuvre d'Igor Stravinsky. Dans son ouvrage « La vie donnée », Raïcha Maritain écrit ce qui suit. « C'était publié il y a bien longtemps, aux éditions de l'Arbre, mon Dieu, au temps de la guerre, ça. J'ai ça depuis ma jeunesse. Elle écrit, c'est un poème, je t'ai longtemps prié, Seigneur, avec beaucoup de paroles, pour te dire pêle-mêle mon désespoir et ma foi, et pour que tu descendes dans la terre de mon cœur en désarroi, et me relève de ma douleur démesurée et me console. Je t'ai prié longtemps avec beaucoup de larmes et de mots ruisselants comme des pleurs, si près du cri, si près du chant et de toute mon âme, exposant à tes yeux toutes mes profondeurs, je t'ai donné mon cœur sans réticence, et toi tu l'as livré à la souffrance. Amour. Je t'ai longtemps prié embrassant ton autel. Je t'ai dit mes secrets sans aucune distance. De mon âme à la tienne, ils ont passé tels qu'ils sont. De mon être à tes yeux, j'ai désiré la transparence. Et j'ai crié, Seigneur, délivre-moi de mes angoisses. Je suis comme un oiseau pris au piège étroit de mon propre cœur. Apaise ton amour jaloux et viens me secourir, Seigneur. Que ta pitié précède la mort qui me menace. Je t'ai livré mon âme et son désir, et tu te caches pour ne pas me voir mourir. Alors il faut attendre la fin de sa vie, les toutes dernières années, pour que Rail Samaritain connaisse véritablement le bout de la nuit, le véritable embrasement de l'âme, comme on dit. Cette petite femme fragile, presque aérienne au fond, elle s'est laissée pétrir dans les mains d'un Dieu mobile, un Dieu bien surprenant, et surtout un Dieu bien exigeant. Dieu est exigeant, nous l'oublions beaucoup. C'est son amour qui le rend exigeant, un amour exigeant. Elle écrit, n'ayant ni guide ni liveur que la lampe ardente en mon cœur. Il y a une sainteté pour chacun de nous. C'est ce qu'elle écrit en 1946. Il y a une sainteté pour chacun de nous à la mesure de notre destinée, et que Dieu se propose d'obtenir par des voies qui ne sont cataloguées dans aucun manuel de perfection. Ultime testament, peut-être. Ce billet de 1960, l'année de sa mort, est parmi les derniers. Cette prière en forme de poème. Dans la nuit elle-même, tout obscure, une lampe brille, brille dans le cœur ardent. Le cœur brûle d'amour, l'amour éclaire toute l'âme. Elle écrit aussi, dans une lettre de nuit, qu'elle intitule comme ça, longtemps avant sa mort, en 1936, « Pendant que s'éloigne le navire qui te porte, » elle l'adressa à son mari, qui s'en va, « Pendant que s'éloigne le navire qui te porte, ô toi ma douceur et ma sécurité, j'écoute si le vent chante à travers les portes, et dans le silence de la nuit que rien ne trouble, par-dessus l'espace aboli, j'attends ton souffle, je me vois dans le miroir de tes yeux pensifs, et tu te demandes si je rêve endormi, ou si je veille, imaginant les longs balancements du vaisseau Île-de-France, et le froissement des eaux qu'il déplace, et le mugissement des sirènes brisant les airs, et tout ce désert autour de toi, et le ciel clos. Mais en toi une grande lumière, et ma petite image qu'elle éclaire. » Elle a une telle admiration pour son mari. Elle avait d'ailleurs écrit aussi des choses absolument étonnantes. Hein? Quant à l'humilité, j'ai la simplicité de dire au père Garrigou-Lagrand ce que j'admets, ce qu'il dit des dangers de l'orgueil qui guettent particulièrement les intellectuels, que j'admets cela pour moi. Bien que je ne sente pas en moi-même des mouvements d'orgueil proprement dit, mais plutôt de la vanité. Et écoutez bien ce qu'elle écrit à ce sujet, au sujet de son mari, Jacques Maritain. mais que je ne l'admets pas pour Jacques, en qui il n'y a pas d'orgueil. Je suis sensible au mouvement d'orgueil chez les autres, ou pour moi-même, je suis peut-être aveugle. Mais je suis certaine qu'il n'y a pas d'orgueil chez Jacques, à moins qu'on ne parle du germe inné commun à tous, hélas. Son admiration pour son mari était immense, immense. Ses derniers mots, d'ailleurs, seront des mots de lumière. Le 27 août 1960, vers le soir, rapporte Jacques Maritain, Raissa répète plusieurs fois, avec un sourire rayonnant, « Je vais mourir, je vais mourir. » Puis elle dit pour me consoler, écrit Jacques Maritain, « C'est pour rire. » Mardi, le 4 octobre, un mois avant sa mort, Jacques note simplement, « Elle rayonne d'amour. » Raissa Maritain s'est en paix rapprochée de Dieu le 4 novembre 1960, à l'âge de 77 ans. C'est vraiment la mort d'une sainte. Je vous lis ce qu'elle écrit un jour. On retrouve ça dans les œuvres complètes, ou dans le troisième volume, page 724. C'est Jacques Maritain qui écrit « Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne et qu'il n'a de grand que sa douleur. Mais je respecte sa douleur. Il y a si peu d'amour dans le monde. Les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Lui seul qui pourrait aider les autres. » Il y a une très belle prière de Raissa Maritain qu'elle a écrite le 31 octobre 1948 à Princeton. C'est paru dans ses poèmes et essais, toujours chez Desclés de Brouwer. Vous êtes la vérité. Vous êtes la sincérité. Mais tout homme est menteur. Que tout ce qui est en moi, le bien et le mal, le mensonge et l'erreur, ce que je sais et ce que j'ignore, vous prie et vous adjure et crie vers vous. Si je cherche à me connaître, je me perds dans mes pensées. Vous seul connaissez le vrai nom de mon être. Et s'il est digne de haine ou d'amour, que votre pitié nous sauve par la grâce. Vous qui opérez en nous le vouloir et le faire, et qui pourriez d'une pierre faire un enfant d'Abraham, purifiez, illuminez mon âme, et qu'elle échappe à la puissance du néant. Je remarque que dans le même livre, ça m'avait échappé autrefois, il y a un hommage à Saint-Denis Garneau. Curieux, hein? Oui, un hommage à Saint-Denis Garneau, notre grand poète, dans « Poèmes et essais » de Raissa Maritain. Je vous ai parlé aussi du prince de ce monde, de Raissa Maritain, tout court, Lettre de nuit, puis La vie donnée, je vous en ai lu un extrait. Elle a publié aussi, avec son mari, des écrits sur la poésie, etc.